Mémoire vive, présentée par Eve Cheftel, préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. On le sait, les Juifs n'ont cessé de témoigner de ce qui se passait pendant la Seconde Guerre mondiale, dans les ghettos, dans les camps, dans les caches ou les refuges. Beaucoup ont pris, quand ils le pouvaient, la plume pour raconter à chaud ce qu'ils vivaient. Ces écrits ont pris différentes formes, y compris celle du roman, ou même du roman-feuilleton, et c'est justement d'un de ces romans-feuilletons dont nous allons parler aujourd'hui, un roman écrit entre 1942 et 1943 par un certain Hanan Ayalti, publié en yiddish et désormais disponible en français grâce aux éditions Antilope sous le titre « Attendez-moi, Métro République ». Notre invité aujourd'hui est Gilles Rosier. Bonjour Gilles Rosier.
Bonjour Eve.
Vous êtes le fondateur de cette maison d'édition qui a déjà publié plusieurs textes. On vous avait d'ailleurs invité à nous la présenter, maison encore relativement jeune. Et j'en profite d'ailleurs pour signaler la parution d'un roman inédit d'Israël Joshua Singer. Alors, c'est Evol, fils de Hersh, devint Willy. Et également, vous m'avez signalé que... en ce moment,
nous avons publié en janvier notre premier essai qui s'appelle Freud à Jérusalem, de l'historien et psychanalyste israélien Eran Rolnik.
Eran Rolnik, qui est en ce moment à Paris, qui rencontre un grand succès. Peut-être pouvez-vous nous parler d'abord de la manière dont vous avez découvert ce roman feuilleton, donc paru au départ en Uruguay. Bon, on va revenir sur l'itinéraire de Hanan Ayalti, de son vrai nom.
Ronan Kleinbord.
Voilà, exactement. Voilà, donc qu'est-ce que vous pouvez nous raconter? Comment vous avez découvert ce roman et qu'est-ce qui vous a donné envie de le publier?
Alors, comment on a découvert ce roman? Bon, moi, j'étais directeur de la maison de la culture yiddish pendant 20 ans et parmi mes fonctions, ça consistait aussi à récupérer toutes les bibliothèques de juifs de Paris que leurs enfants confiaient à la bibliothèque Medem. Et je voyais passer ce nom que je n'avais pas lu, je dois avouer. Il a publié plusieurs romans qui ont été publiés sous forme de livres. Et la traductrice Monique Charbonnel-Greenhouse, qui est toujours à la recherche de textes à traduire, a demandé conseil à Yitzhak Niborski en lui disant « qu'est-ce que je pourrais traduire ?» Et comme Monique est née à Paris à la fin des années 30, que son père a été arrêté dans la rafle du billet vert, qu'il a été déporté de Pithiviers, qu'elle habitait dans le quartier des Grands Boulevards et du canal Saint-Martin, Yitzhak s'est dit « Ah, Tate Unzun », donc le titre yiddish
voilà,
qu'on a donné.
Voilà, c'est là où se passe l'action.
Attendez-moi, Métro République, c'est tout à fait approprié pour le parcours personnel de Monique Charbonnel-Greenhouse. Et donc, elle l'a traduit, et au moment où nous avons créé les éditions de l'Antilope, elle l'avait déjà traduit, en fait, et elle nous a proposé de le publier. Moi, je l'ai lu en yiddish, puis j'ai lu sa traduction française, et j'ai trouvé que c'était un roman formidable, très, très... Ce qui est étonnant dans ce roman, c'est qu'il parle d'une action qui se passe en 1941 et qu'il a été écrit en 1943. Donc c'est sans doute une des premières fictions sur l'époque de l'occupation et de la vie des Juifs immigrés de Pologne à Paris pendant la guerre.
Écrite à chaud, mais pourtant avec une grande lucidité. Moi, en lisant, j'avais oublié ça, je l'avais lu et oublié qu'il avait été écrit pendant la guerre. Parce que autant on n'est pas forcément surpris, bon, quand on lit la description de l'Exode ou la capitulation, on l'a déjà lu ailleurs, mais tous les passages concernant vraiment le sort des Juifs, l'arianisation des magasins, puisque donc le père du héros est un marchand de tissus, quoi, qui a été dont le magasin...
Oui, alors c'est un homme arrivé au début des années 30 en France qui a commencé par s'installer au Plätzl, donc rue des Rosiers, autour de la rue des Rosiers. Et puis à force de travail et d'obstination, a réussi à s'acheter un magasin, en tout cas un fonds de commerce, sur les grands boulevards, ce qui à l'époque était les Champs-Élysées des Juifs, les grands boulevards. Et puis arrive la guerre, l'occupation, et on lui arianise son commerce. Donc il se retrouve oisif, puisqu'il n'a plus le droit de mettre les pieds dans son commerce. Il y a un administrateur... nommé par les autorités françaises sous l'impulsion des nazis. Mais ce qui est très surprenant, en fait, c'est que Hanan Ayalti n'a même pas vécu cette période à Paris, puisqu'il est parti de Paris quelques jours avant l'invasion allemande, l'occupation allemande de Paris. Donc il est parti avec l'Exode et après il était à Villeneuve-sur-Lot jusqu'à la fin de 1942.
D'accord, donc, oui, en fait, parce qu'il a fait ses études avant en fait. Hein,
oui, il a fait ses études dans les années 30 à Paris. Mais donc il a beaucoup de descriptions du Paris des années 30, mais vraiment la condition des Juifs à Paris en 1940-41, c'est sans doute des amis qui lui ont raconté, peut-être d'autres réfugiés qui sont arrivés plus tard.
Parce qu'il a été aussi interné au camp des Milles.
Donc voilà, donc effectivement, une fois qu'il a été dans le sud, à Villeneuve-sur-Lot, avec son épouse, qui était une femme allemande anti-nazie, non-juive, ils ont tout de suite essayé de partir en Amérique. Il était devenu très ami avec Hannah Arendt, qui, elle, a gagné l'Amérique très vite. Et ils n'arrivaient pas à trouver un visa, ils n'avaient jamais les cautions suffisantes, etc. Et à un moment donné, il était à Marseille en essayant de trouver un visa, un bateau, et il a été arrêté dans une rafle, interné au camp des Mines. Et son épouse, sans doute parce qu'elle était germanophone et aussi parce qu'elle était très futée, elle a trouvé une espèce de détail juridique et elle a réussi à le faire sortir du camp des Mines. Elle a pris un avocat, en fait. Et il est sorti du camp des Mines, ils ont réussi à avoir un visa, ils sont partis à Bilbao, clandestinement, et ils ont pris le bateau pour l'Uruguay.
D'accord, parce que c'est vrai que c'est saisissant de réalisme, hein. Alors que ça soit, comme on disait, l'organisation, aussi les rafles, le camp de Drancy, enfin ces visites, puisque donc la sœur du héros...
Fille s'appelle Hélène, oui, et mariée à un homme qui est arrêté et interné à Drancy.
Voilà, donc elle va tous les jours en quête de nouvelles, donc ça c'est aussi, je trouve, très, très réaliste.
Mais si on revient donc sur Hanan Ayalti, parce que lui-même aussi, son parcours, ça s'est pas arrêté à Montevideo.
Et ça n'a pas commencé à Paris.
Alors, sa carrière.
Hanan Ayalti, il est né dans les années 1910 dans l'Empire russe, à côté de Bialystok. En 1914, le tsar a décidé que les Juifs risquaient de fraterniser avec l'ennemi allemand, donc il a déporté un certain nombre de gens vers l'intérieur de l'Empire. Donc ils se sont retrouvés du côté de la Sibérie, enfin de l'Asie centrale, et ses parents et lui reviennent dans leur shtetl d'origine en 1919, et à ce moment-là, le territoire est polonais, et Hanan Ayalti commence à faire des études dans un cheder, puis une yeshiva, mais la religion c'était pas vraiment son centre d'intérêt, et il passe dans une école du réseau Tarbout, donc une école hébraïque. Il a vraiment fait tout son apprentissage de culture laïque en hébreu. Donc, les écoles Tarbout prônaient l'Aliya, donc il intègre la Shomer HaTzair, un mouvement de jeunesse. Il part en Palestine dans les années 1920. La Shomer HaTzair, c'était très, très communiste, avec deux tendances, des gens qui étaient plutôt nationalistes juifs et des autres qui étaient très internationalistes. Et lui, il était du côté internationaliste. Et lui, il est parti en Palestine en disant « on va faire la révolution mondiale, la révolution mondiale va partir de Palestine ». Donc il arrive en Palestine, il se dit la première des choses, les prolétaires, ils ne sont pas que juifs, ils sont aussi arabes. Donc il fait partie de cette frange de la Shomer HaTzair qui se dit « on va fraterniser et on va amener la population arabe au communisme et à la révolution. Il part de la Shomer HaTzair parce qu'il en est exclu, parce qu'il n'était pas dans la ligne nationaliste juive. Il intègre le Parti communiste de Palestine, il participe à des actions contre la puissance britannique, et il incite les populations arabes à se soulever contre les Britanniques et contre les pionniers sionistes. Il fait de la prison. Et en 1933, il part de Palestine, totalement désillusionné du sionisme. Il arrive à Paris et au moment de la guerre d'Espagne, il est appointé par le journal yiddish communiste d'Inaïe Presse pour être correspondant de guerre pendant la guerre d'Espagne. Il voit tout ce que le stalinisme a pu faire d'atroce à la guerre d'Espagne, c'est-à-dire qu'il a liquidé tous les mouvements de gauche non communistes. Et il revient de la guerre d'Espagne complètement désillusionné du communisme. Donc c'est un homme désillusionné de deux utopies auxquelles il a commencé à croire. Et c'est là qu'on le saisit, donc au moment de l'occupation. et où il écrit « Attendez-moi, métro République », après avoir écrit...
Nourrit cette expérience quand même de la guerre d'Espagne,
absolument, puisque en fait, les Sokolovski, les parents Sokolovski ont deux enfants, Hélène, la fille dont on a parlé, et le fils qui s'appelle Jacques, qui est parti à la guerre d'Espagne, et qui lui est totalement... il est communiste. Et quand il revient de la guerre d'Espagne, au moment de l'occupation, il s'engage dans la FTP MOI, donc la résistance communiste étrangère, et il fait une action contre les nazis dans un garage où il y a des véhicules en réparation des nazis. Et après, il est recherché par Gestapo. Et en fait, l'intrigue du livre, qui est presque un thriller... Hein,
oui, tout à fait, ça se lit vraiment...
L'intrigue du livre, c'est les parents Sokolovski, un peu désœuvrés parce qu'ils n'ont plus leur commerce, et qui, ça se passe sur quelques journées, et qui ne savent pas où leur fils se trouve, puisqu'il se cache, et il est recherché par Gestapo. Et alors, le livre fait 450 pages, donc c'est pas quelques journées en 450 pages, puisqu'il y a énormément de flashbacks sur l'arrivée des Sokolovski en France dans les années 30, sur la guerre d'Espagne, etc.
Justement, le roman yiddish s'appelait Tate und Sohn, et on a l'impression que c'est justement une histoire de deux générations, celle du père qui vient de Pologne, encore pétri de tradition juive, et celle du fils qui a embrasé l'idéologie révolutionnaire.
Très intéressant à cet égard de voir comme les enfants, tant Jacques, le fils, que Hélène, la fille,
aussi, oui,
sont un peu en porte-à-faux, parce qu'eux, ils parlent parfaitement le français, ils ont été élevés en France, ils n'ont qu'une envie, c'est d'être français. Mais quand même, ils ont leurs parents qui fréquentent que des juifs yiddishophones. Donc, ils sont vraiment en porte-à-faux entre la culture française et la culture originelle des parents, qui, eux, ne sont pas particulièrement pratiquants, mais qui sont quand même marqués par la tradition qu'ils ont héritée de Pologne.
C'est un thème, cette ambivalence ou cette... cette double culture, on va dire, qu'on retrouve beaucoup quand même dans la littérature yiddish du XXe siècle. Chez Singer, par exemple, dans Brussels Hudson, ou...
Effectivement,
c'est toute une génération. La tradition et la modernité.
Bien sûr.
L'attirance de la modernité et en même temps la mauvaise conscience, quelque part, de ces fils-là. Rapport à leur père.
Et quoi. C'est ce qui fait effectivement le sel de la littérature yiddish, parce que qu'est-ce qui s'est passé pour les juifs d'Europe orientale au début du XXe siècle ? C'est vraiment le passage à la modernité. Mmh. Donc le rejet, mais pas totalement rejeté, de la tradition des parents, c'est-à-dire c'était des gens qui disaient on veut être européen. Les jeunes gens coupent leurs paillasses et mettent des costumes de ville. À leur appel, on disait habillé à l'allemande. En yiddish, on dit habillé à l'allemande, c'est-à-dire on n'a plus un caftan juif, mais on est habillé à l'européenne. Et en même temps, la littérature yiddish, elle est faite de ça, parce qu'elle s'inspire aussi beaucoup de la tradition juive, mais dans un contexte totalement moderne.
Mais ici, on a vraiment le thème du conflit moral, en fait. C'est-à-dire, on voit que lui-même, il se pose beaucoup de questions.
Il se pose beaucoup de questions, entre autres, parce qu'il a une relation d'amour avec une jeune fille non-juive, de fille d'ouvrier. Donc, il se retrouve sur le terrain du communisme, enfin, en tout cas, du prolétariat. La fille comprend pas très bien parce que bon voilà il est juif, elle comprend pas en quoi elle comprend pas en quoi il est juif parce qu'il a l'air comme tout le monde, et lui il sait pas très bien, il dit pas à ses parents qu'il fréquente une jeune fille non juive. En même temps, la jeune fille non juive l'aide beaucoup dans sa tentative d'échapper aux nazis. Donc c'est tous ces conflits là. Et il y a aussi quelque chose que je trouve très intéressant et qui a pas beaucoup été traité, c'est que Hélène se lie d'amitié avec une jeune fille juive des beaux quartiers. Une fille d'une famille juive d'origine alsacienne.
Assimilée.
Et cette amie d'Hélène lui dit, mais vous êtes les vrais juifs, les juifs de l'Est, c'est, vous avez gardé la tradition, nous on est complètement éloignés de la tradition. Et c'est très intéressant ce moment-là.
Elles disent, on fait le parcours à l'envers. Hein. Chacun fait le parcours à l'envers.
Oui.
Oui, d'ailleurs, il y a un passage là où il est... Il raconte, il dit que la mère, donc Rachel, elle est en adoration devant son fils. Il dit qu'il deviendrait célèbre justement dans ce monde goy qui les entourait. N'y avait-il pas des avocats juifs de renom à Paris ? Donc la mère, elle est dans un rêve d'ascension sociale pour ses enfants, sachant qu'elle a commencé effectivement un petit bout, hein, à parcourir un petit peu de faire un peu de chemin du Pletzel au Grand Boulevard, l'étape d'après. Alors moi, ce que je découvre aussi, hein, mais l'étape d'après étant le 16e, enfin, où vivent donc les grandes familles. Et il dit, voilà, et sa sœur, donc, et Hélène, elle était occupée à devenir une vraie Parisienne. Alors, pour Jacques, rejoindre l'aile gauche avait été, donc pour Jacques, un moyen radical de s'insérer dans la société. Donc voilà, chacun... pour la sœur, c'est de faire
la bourgeoisie. Un peu bohème parce qu'elle est artiste. Et pour Jacques, c'est le prolétariat.
Voilà, se déjudaïser dans le communisme. Voilà, il n'y a qu'un seul humanité, etc. Et puis aussi de cette histoire d'amour qui est aussi un moyen de s'insérer aussi. Et qui nous fait rentrer, nous, lecteurs, dans finalement la classe populaire, ouvrière de ces années-là. C'est ça qui est formidable dans ce roman aussi, qui est décrit vraiment dans toutes ses habitudes.
Oui, il y a des très belles descriptions. On va, c'est pas dit tel quel, dans mais on est à la fête de l'humain. À un moment donné, on est dans les.
Dans les meetings,
on est de plein pied aussi dans l'éducation populaire du Parti communiste, etc. Les gens vont dans des patronages pour apprendre, pour lire la littérature, etc. C'est vraiment, c'est un roman très réaliste. Ayalti, comme beaucoup d'écrivains yiddish de son temps, a été très inspiré par Zola, par Balzac. Mmh. C'est vraiment le modèle du roman français du 19e siècle qui a inspiré ses auteurs. Mais lui, il fait ça avec beaucoup de talent. C'est un romancier réaliste de talent.
De grand talent. Je trouve que la langue est très belle. C'est très précis. C'est parfois poétique. Bon, c'est jamais lyrique en même temps. Bon, il y a quelque chose
Et puis on rentre dans l'histoire, quoi. Enfin, il y a un plaisir.
Alors, il est évident. Enfin, je discutais avec Henri Raksimov hier soir et qui me disait, mais moi, je suis chez moi dans ce roman. Il l'a lu. Il dit, je suis chez moi. C'est ma famille. C'est mes parents, mes grands-parents. On est à Belleville. On est sur le canal Saint-Martin.
Mais en même temps, enfin, par rapport à ce qui est en train de se passer pour les Juifs et notamment la conscience de l'extermination, on a l'impression quand même qu'il y a une acuité et qu'il y a une compréhension de ce qui est en train de se mettre en place dans ces années-là. Et est-ce que vous pensez qu'il cherchait aussi à sensibiliser en pleine guerre les lecteurs sud-américains sur ce qui se passait à Paris, ou est-ce que c'était...
Il me semble effectivement que ça a été... En tout cas, c'est le premier roman qui a été publié sur ce sujet, et sa réception a été... C'est un livre qui a très bien marché à sa sortie, enfin d'abord sous forme de feuilleton dans la presse de Buenos Aires, et puis après en livre. Donc en feuilleton, il est sorti en 1943. Et malheureusement, comme il était écrit en yiddish, il est resté inconnu du reste du lectorat. Il n'y a que des lecteurs yiddishophones qui y ont eu accès. Mais on sent effectivement qu'il a envie de faire prendre conscience de ce que c'est que Paris sous occupation. Alors bon, il n'a pas non plus une préscience très précise de ce qui attend les Juifs une fois qu'ils sont partis dans
l'Occident. Non, mais l'extermination, c'est noté quand même. Enfin, oui. Un moment, et puis quand même, on a l'impression que... Je veux dire,
le tragique, en tout cas, de la condition
juive. Le tragique est très fort, et puis on sent que ça s'accélère aussi. Enfin,
oui,
on
et puis il y a aussi les derniers billets que les gens lâchent de Drancy, confient à des gens pour dire « je pars demain », etc., des choses très poignantes.
C'est très documenté. Enfin, pour quelque chose qui a été écrit en 42-43, c'est vraiment documenté comme ça, comme si...
Oui, et puis de temps en temps, on voit quelques toutes petites erreurs. Par exemple, il décrit le Pletzel en disant la rue Grotefroid-Cavaignac, qui est quand même très loin du Pletzel, puisque la place Voltaire. Ouais. Ça, c'est des toutes petites choses. Ou alors, la traductrice m'a dit, il a parlé du pont tournant du canal Saint-Martin, et en fait, c'est un pont levant, ou le contraire, je ne sais plus. Mais bon, c'est des micro-erreurs. De quelqu'un qui écrit de mémoire.
Parce qu'on imagine qu'il était de l'autre côté de l'Atlantique, qui revivait aussi ses années parisiennes. C'était une façon pour lui aussi de...
Moi, il y a un passage qui m'a énormément touché, c'est qu'il décrit un local où il y a à la fois une bibliothèque et une cantine ouvrière qui se trouve rue Vieille du Temple, et c'est vraiment la bibliothèque Medem qui se trouvait au 110 rue Vieille du Temple pendant la guerre et qui servait à la fois de bibliothèque et de cantine ouvrière. Donc c'est vraiment des lieux qu'il a dû fréquenter, et j'étais très ému quand j'ai lu ces pages.
Et il a écrit d'autres livres après.
Alors, il a écrit d'autres livres avant. Ça aussi, c'est une histoire en soi. C'est qu'il a commencé, quand il était en Pologne, il a écrit un livre en hébreu, puisque c'était sa langue de culture. Il avait fait ses études en hébreu, sur qui se passe dans le shtetl. Et après, quand il est arrivé en France, il a écrit un livre qui s'appelle Der Boom und Kaiten, sur son expérience palestinienne. Et c'est un livre passionnant, qu'on risque de traduire d'ailleurs. Et il l'a écrit en yiddish. Pourquoi est-ce qu'il l'a écrit en yiddish ? Parce qu'il était extrêmement critique à l'égard du sionisme. et qui s'est dit, si je l'écris en hébreu, je ne trouverai jamais une maison d'édition pour le publier, parce qu'à l'époque, les maisons d'édition étaient vraiment sur... il fallait construire la nation, la future nation israélienne, il n'était pas question de publier des choses divergentes. Et c'est comme ça qu'il est devenu un écrivain yiddish. Il s'est forgé sa langue de culture, il a lu la littérature yiddish qu'il n'avait pas lue étant enfant, étant jeune, il l'a lue dans les années 30 à Paris. Vraisemblablement à la bibliothèque Medem, d'ailleurs, en empruntant des livres. Et donc, il a écrit ce texte qui a été publié à Vilnius en 36, je crois. Et ensuite, quand il est revenu de la guerre d'Espagne, il a écrit un autre roman qu'il a fini en 1939, qui n'a été publié qu'après la guerre, parce que la guerre a éclaté à Paris, qui s'appelle « L'hôtel qui n'existe pas », « Der Hotel was existiert nicht », sur son expérience de la guerre d'Espagne. Espagne. Donc en fait, à chaque moment de sa vie, il a parlé de ses expériences sous une forme romanesque. Et ensuite, puisqu'il a habité New York à partir de 1946, et il est mort à New York, il a écrit d'autres romans qui se passent dans le contexte américain, etc. Ou des nouvelles.
En anglais ou en yiddish?
Non,
toujours,
en yiddish, toujours
en yiddish,
oui.
C'est resté un
Et il a après, il a continué à écrire un petit peu dans la presse hébraïque, et une ou deux choses en anglais, mais des essais plutôt. Enfin, en tout cas, sa principale langue d'écriture, ça a été le yiddish.
Et puis aussi, ce qu'on se pose comme question quand on voit cette forme du roman et du roman feuilleton, est-ce que vous savez s'il y a eu beaucoup de romans qui ont été écrits par des juifs au milieu de la guerre? Parce que, voilà, après la guerre, on sait que c'est quand même le témoignage qui s'est imposé par rapport à la forme romanesque.
À ma connaissance, il n'y en a pas beaucoup, non. En Pologne, ça a été beaucoup des témoignages ou des journaux intimes, des choses comme ça. Je n'en connais pas.
On a l'impression que c'est parce qu'il a été sauvé, finalement, qu'il arrive à avoir cette.
Oui, c'est vrai. Bah, il
peut nous parler d'amour pendant l'occupation avec autant de.
Oui. Bah, il est témoin sans être témoin, effectivement. Mais même. Oui, en fait. Et en même temps, si vous voulez, un écrivain, il trouve sa forme. Donc lui, manifestement, sa forme, c'était soit la nouvelle, soit le roman. Hein. Il n'a pas. Il n'a pas publié de journaux intimes, il n'a pas publié... Si, il a publié un journal d'un voyage en Union soviétique au début des années 60 qu'il avait fait. Mais c'est la seule chose qu'il a publiée qui ne soit pas, du romanesque, sous forme de livre en tout cas.
Une dernière question. Vous avez fait donc vous nous disiez là avant que l'émission commence, un vrai travail d'édition quand même par rapport à ce livre. Dans le sens où, voilà, c'est pas simplement une traduction à revoir, il y a quand même nécessité d'adapter.
En fait, en tant qu'éditeur, français. Il faut toujours voir comment, dans quelles circonstances le manuscrit original a été publié. Hein. Donc, quand vous vous saisissez d'un livre qui a été publié aux éditions Shoken de Tel Aviv, qui sont le Gallimard israélien, vous avez peu de doutes sur le fait qu'il y a un vrai travail éditorial qui a été fait par la maison d'édition. Lui, ce texte, il l'a publié. C'est écrit sur le livre « Comité Ayalti de Montevideo ». Donc on s'imagine qu'il est allé voir quelques petits camarades confectionneurs un peu fortunés qui ont donné chacun 500 ou 1000 dollars. Et après, il est allé voir un imprimeur pour imprimer son livre. Donc il n'y a pas eu d'éditeur. Les lecteurs n'ont pas forcément conscience de la valeur ajoutée qu'apporte un éditeur à un texte littéraire. Et donc il était évident qu'à certains endroits, il fallait un petit peu retravailler. Et c'est ce que Anne-Sophie Dreyfus, donc, qui s'occupe de l'édition aux éditions de l'Antilope, a fait avec Monique Charbonnel-Greenhouse. Et, de temps en temps. Et puis, il y avait aussi d'autres choses, tout simplement, qui sont dues au passage du yiddish en français. Le yiddish adore les répétitions, il adore l'accumulation des adjectifs. En français, vous ne pouvez pas dire l'homme haut, grand, intelligent, aux yeux verts, etc., dans la même phrase. Donc, dans ces cas-là, il faut un tout petit peu soit couper la phrase, soit faire des choix dans les adjectifs ou des choses comme ça. Enfin bon, ça, c'est du travail éditorial classique.
D'accord. En tout cas, merci Gilles Rosier d'être venu de nous parler de ce beau roman hein, dont nous recommandons avec Rachel la lecture aux auditeurs, de Hanan Ayalti, « Attendez-moi, Métro République », donc paru aux éditions de l'Antilope. C'était « Mémoire vive ». Deux adresses pour nous retrouver, radio-rcj.info, mémoire-vive au pluriel.net. À dimanche prochain.